Radio Kapi.
Ce journal vous parle en son début de la situation dans le Rutshuru avec ces affrontements qui opposent les FRDC aux rebelles de M23. Ce dimanche, il est signalé un retrait des rebelles M23 depuis la nuit de samedi à ce dimanche de leur position conquise dans la zone de Kabindi vers Bougoussa. Bernadine Diambou nous en parle tout de suite. De la politique, il en sera question avec Martin Fayoulou qui réunit ses sympathisants de Mbandaka. Martin Fayoulou sensibilise, moralise et les invite à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Maître Michel Okanda, promoteur de l'ASBL Génération. Michel Okanda intervient en fin de cette édition comme invité. C'est pour nous parler de l'appui et de l'accompagnement des femmes maraîchères dans la province du Maniema, lesquelles bénéficient d'un microfinancement de plus ou moins 5 millions de francs congolais. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Kapi pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. Au Nord Kivu, un calme relatif s'observe ce dimanche dans le territoire des Rutshuru. C'est notamment dans la zone de Djomba où se sont déroulés des violents combats ces deux derniers jours entre les FRDC et les rebelles du M23. Selon des sources concordantes dans la région, le M23 s'est retiré dans la nuit de samedi à ce dimanche de ses positions conquises dans la zone de Kabindi vers Bougoussa. Bernadine Diambou nous en parle.
La société civile dans la région constate ce dimanche que le M23 s'est volontairement retiré dans la nuit sur le terrain à Kabindi, Tchengerero, Mungo et Cheya sans tirer de coups de feu. Toutefois, selon nos sources, ces hors-la-loi ont pillé systématiquement les boutiques et certaines maisons avant de se diriger vers Bougoussa et aux environs des collines de Runyoni et Tchandjou dans le groupement Jomba. Dans un communiqué signé et publié ce dimanche 10 avril, la direction du M23 affirme se retirer de ses positions offensives d'avant le 6 avril dernier. Les communiqués justifient ces retraits pour permettre au gouvernement de tenir compte de leurs revendications à travers une reprise des dialogue franc et fructueux avec le M23. Dans ses communiqués, le M23 promet également de remettre au comité international de la Croix-Rouge CICR tous les éléments FRDC capturés sur la ligne de front. Tous nos efforts pour avoir la réaction des FRDC sont restés vains. En matière d'assistance humanitaire, le Programme alimentaire mondial PAM a procédé ce samedi à sa première distribution en vivres et non-vivres dans les sites de déplacés de l'épée Rugabo à retour au centre. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
À Nitouri, les rebelles des ADF ont attaqué samedi trois autres villages après leur incursion vendredi soir à Pakoulou au sud d'Irumu sur la route nationale numéro 4. Selon des sources concordantes, au moins 14 personnes sont tuées par ces rebelles et 13 motos brûlées et plusieurs maisons incendiées. Les acteurs de la société civile indiquent qu'aucune intervention jusque ce dimanche pendant que ces hommes armés progressent vers d'autres localités dans la forêt. Isaac Remoyope.
Après l'attaque du village de Pakoulou qui avait fait 8 morts vendredi soir, les rebelles des ADF ont progressé au village de Mangualo, Mutunanze et Apakola. Ils ont abattu 6 autres civils dans ces entités situées au cœur de la forêt dans la chefferie de Wallace et Vonkutu, affirment des sources locales. Parmi les 14 victimes enregistrées ces deux derniers jours, les jeunes ont réussi à récupérer 8 corps. Ils se mobilisent pour aller chercher d'autres depuis malgré la présence de ces rebelles. Pendant leur incursion, ces hommes armés ont brûlé 13 motos et incendié plusieurs maisons. Les dégâts sont énormes, surtout au village de Mangualo, qui est complètement consumé par les feux. Toute la population de ces entités a trouvé refuge à Otmaber sur la RN4 où est signalée la présence des FARDC. Selon certains rescapés, le mouvement de ces rebelles a été observé ce dimanche matin au village de Mangina et de Kasoku. Ils demandent aux FARDC de ne pas sécuriser seulement les localités le long de la RN4 sur les tronçons Komandaluna, mais de traquer ces rebelles dans la forêt. Du côté de l'armée, on signale que les opérations sont en cours pour démanteler ces groupes armés. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette arrestation de trois contrefacteurs de monnaie à Kongolo dans la province du Tanganyika. Le service de sécurité les accuse d'avoir tué et enterré nuitamment un homme et de lui avoir escroqué une moto et une somme de 5 millions de francs congolais. Selon l'administrateur du territoire assistant en charge des questions politiques et administratives à Kongolo, hier samedi, la population a tenté de se rendre justice, mais les agents de l'ordre ont protégé les bourreaux. Joseph Kiteba Kitumaini a été joint par Fulbert Balolagué.
Depuis le 31 mars
2022, nous avons eu les enquêtes que monsieur, en provenance de Kalemi, Ngoï Kitenge Ezekiel, est venu contacter un groupe de féticheurs pour frapper l'argent. Ce groupe de malfaiteurs-là sont des frappeurs d'argent sous la conduite de monsieur Kapompelo Mathias. On lui a escroqué un montant de 5 millions, d'après les déclarations de certaines sources. Ils l'ont tué, ils lui ont ravi la moto. Et depuis cette date-là, les enquêtes étaient en cours. C'est maintenant, aujourd'hui, que nos services ont été informés suffisamment. Ils ont mis la main sur cette bande-là de malfaiteurs. Nous avons constaté le fait. Nous sommes allés voir la tombe de ce monsieur-là, bien identifié par les gens qui le connaissent. Mais la population a été vraiment en colère. Elle est partie incendier toutes les maisons du présumé auteur et ils ont réclamé la justice populaire. Ce que nous pouvons dire à la population, ce n'est pas de se faire justice. La justice est là pour juger les malfaiteurs.
Politique à présent. Martin Fayulu depuis ce week-end à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Le candidat malheureux au présidentiel de 2018 a été accueilli ce samedi par ses nombreux sympathisants qui l'a remercié, mais aussi réarmé moralement pour les échéances électorales de 2023. Ainsi, le président sortant de la Mouka a lancé l'appel à l'unité nationale et à l'enrôlement massif des électeurs pour ces élections. Le point avec Paul Richard Malengela.
Martin Fayulu est arrivé à Mbandaka au moment où la ville se prépare à recevoir la visite du chef de l'État. Comme ailleurs, il s'est adressé à la foule de ses sympathisants au stade municipal de Wangata. Il a d'abord remercié les Mbandakais de l'avoir, selon lui, élu à 90% en 2018. C'est pourquoi il leur a demandé de lui renouveler la même confiance en 2023. Il a aussi exhorté la population à l'unité nationale et à l'enrôlement massif pour doter l'Équateur de plus de sièges électifs. Par ailleurs, le président sortant de la Mouka a dénoncé la corruption qui gangrène le pays et déclaré que rien ne marche, notamment l'économie, le social et la sécurité. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route en bon état. Autant de choses qu'il compte offrir aux Congolais dès qu'il serait élu en 2023 selon lui. Le président de l'ECID a aussi épinglé le non-respect des droits de l'homme à l'Équateur en fustigeant l'arrestation des acteurs politiques, des droits humains et des médias. Au point de vue politique national, il s'est insurgé contre l'adhésion de la RDC à la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est. Pour lui, en signant cette adhésion, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a plutôt donné carte blanche à la balkanisation économique du pays. Mbandaka, Paul Richard Malengela, Radio Okapi.
Notons que selon son agenda, ce dimanche, Martin Fayulu devait assister à la messe des rameaux à l'église Saint-Pierre-Claver de Bakusu avant de se rendre à Bikoro Centre, localité située à 128 km au sud-ouest du chef-lieu de l'Équateur. Interdiction des motocyclistes à circuler au centre-ville de Lubumbashi. La question a été au centre des échanges ce samedi entre le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et les motocyclistes. La rencontre a eu lieu à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de cet organe délibérant. Le président de l'Assemblée provinciale devrait ainsi répondre aux préoccupations lui soumises la veille par ses interlocuteurs qui veulent aussi l'assouplissement de cette mesure. Les détails avec Jean Gandou.
Après avoir pris langue avec les différentes autorités concernées par ce dossier, Michel Ngoï Katebe a d'entrée de jeu rassuré qu'il ne sera plus question pour les agents de l'ordre de tracasser et de torturer les motocyclistes. Toutefois, il leur a demandé de travailler dans les limites fixées par l'autorité urbaine. Au sujet de leurs associations suspendues par le maire de Lubumbashi pour entre autres non-encadrement de leurs membres qui ne respectent ni l'autorité établie, moins encore les lois du pays, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a une fois de plus rassuré que cette mesure sera levée très prochainement après la réunion qu'il aura avec leurs responsables pour des petites fixations. Une autre annonce phare est la libération de tous les motocyclistes arrêtés en rapport avec ce dossier. Cela interviendra après la formalisation de la procédure avec la justice, a-t-il indiqué. À l'issue de la rencontre, certains motocyclistes ont exprimé leur indignation car ils s'attendaient tout au moins à ce qu'ils soient autorisés de circuler au centre-ville juste pour y déposer leurs clients sans pour autant avoir de parking fixe. Ils promettent qu'ils continueront à plaider pour l'atténuation de cette mesure. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, réunis en cadre de concertation, les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de cette province demandent au président de la République de ne pas prendre en compte le mémorandum initié par une frange des personnes handicapées à Kinshasa qui ont demandé au chef de l'État de ne pas publier leur loi organique et de les renvoyer pour une seconde lecture au Parlement. Le président du cadre de concertation des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables du Maniema demande au président de la République de ne pas prêter attention à cette requête.
mais plutôt d'honorer cette catégorie de personnes marginalisées. On écoute Maître Kanamu Likita Stanis au micro de Florence Kizalunga.
Les personnes handicapées et autres personnes vulnérables de la province du Maniema, nous demandons au président de la République la promulgation de notre loi organique qui constituerait un honneur pour nous qui sommes personnes vulnérables et marginalisées, de ne pas prendre en compte les déclarations de cette frange de personnes handicapées qui avaient pris aussi part aux travaux de l'élaboration de cette loi organique et qui ne visent que leurs intérêts égoïstes. D'ailleurs, lorsqu'ils ont pris cette initiative, ils n'ont même pas consulté les personnes handicapées des provinces. Nous demandons aussi au président de la République d'octroyer de l'autonomie à notre ministère par la création du secrétariat général, car avec le secrétariat général, notre ministère sera autonome et pourra résoudre tant soit peu les problèmes des personnes handicapées sans toutefois attendre l'autorisation de qui que ce soit.
Dans la province de la Tchopo, le Conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, vient d'élire un nouveau président pour le groupement de la Tchopo et du Bazouélé. Son élection est intervenue le samedi 9 avril au Palm Beach Hotel. C'était en présence de plusieurs membres et délégations venus de Kinshasa, du Bazouélé et du Haut-Ouélé. Tipe Tambwe Lukongo a été élu pour un mandat de 3 ans, soit de 2022 à 2025. Il succède ainsi à Raymond Mokeni Ekopi Kane, décédé l'année dernière. Le nouveau président s'engage notamment à défendre les intérêts de ses membres et à promouvoir les femmes. Tipe Tambwe, dans ses propos recueillis par Jacques Mukonkole.
Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel pathétique aux opérateurs économiques qui hésitent encore à venir nous joindre pour qu'ensemble nous puissions constituer une force syndicale unie, forte, disciplinée, surtout civique. Pendant notre mandat, notre devise sera « tous pour un ». C'est-à-dire toucher aux intérêts d'un de nos membres, c'est toucher toute la fête et nous allons les défendre comme un seul homme. Au cours de notre mandat, nous allons travailler pour la promotion de la femme, car il n'est pas normal que dans une société où nous reconnaissons tous les rôles combien louables de la femme, qu'on ait seulement 10% de la représentation féminine au conseil provincial et 0% au bureau du conseil provincial.
Kwilu, les frais de participation aux épreuves hors session et session ordinaire pour l'exercice 2021-2022 viennent d'être communiqués officiellement aux élèves finalistes du secondaire de la ville de Bandundu. Ces frais fixés dans un arrêté pris par le gouverneur de province, Willy Ichundala, s'élèvent à 67 000 francs pour la série hors session et 50 000 francs pour la session ordinaire. Ces élèves ont été réunis samedi par le conseil provincial du système éducatif de la province éducationnelle, Kwilu 1, pour une séance de sensibilisation à ces sujets, comme a fait savoir le directeur provincial de cette juridiction, Denis Changa Kapinga. Irène Boma nous en parle.
Dans une interview accordée samedi à la presse, après cette séance de sensibilisation et de vulgarisation auprès de tous les finalistes du secondaire de la ville de Bandundu, le directeur provincial de la province éducationnelle Kwilu 1 a révélé les montants que doivent payer ces derniers pour leur participation aux épreuves de la hors session prévues le 23 de ce mois d'avril et celle de la session ordinaire ou examen d'état. Denis Changa Kapinga met en garde tous les chefs d'établissement scolaire qui ne vont pas se conformer à cette instruction.
Nous avons les arrêtés signés par les premiers citoyens de la province concernant l'examen d'état, l'ENAFEP et l'ETENASOSP. La hors session, c'est à 67 000 francs congolais. La session ordinaire, c'est à 50 000 francs congolais. Il a insisté qu'aucun franc ne peut être ajouté au-dessus de ce qu'il avait déjà signé. C'est le conseil provincial qui s'est déplacé pour faire ce travail. Donc il y avait l'IPP, les DIPROSEC et moi-même les PROVED. Nous avons donné nos numéros téléphoniques à tous les finalistes pour dire au cas où un chef d'établissement demande plus que ce que le gouverneur a fixé qu'on puisse nous alerter.
Notez que ces élèves finalistes ont été répartis en 3 sites dans la ville de Bandundu pour être sensibilisés. Il s'agit du site du collège Kivuvu, de l'ITP Mossala et du complexe scolaire Saint-Joseph. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Jérusalem, de nombreux chrétiens se sont réunis pour célébrer le dimanche des Rameaux. Une messe a été officiée à l'église du Saint-Sépulcre afin de marquer l'événement. L'archevêque catholique Pierre Battista Pizzaballa s'est tenu à côté des lédicules, un sanctuaire construit à l'endroit où le corps de Jésus aurait été déposé après avoir été enlevé de la croix. L'archevêque a ensuite distribué des feuilles de palmier bénies aux religieux. Une fois l'office terminé, les fidèles ont été invités à prendre part à une procession à travers la ville de Jérusalem, retraçant le parcours historique de Jésus il y a 2000 ans. La date marque, selon la Bible, l'arrivée triomphale de Jésus à Dodan dans la ville, accueillie par une foule brandissant des rameaux et déposant des vêtements sur son passage. Elle représente également le sixième et dernier dimanche du carême, annonçant l'entrée dans la semaine sainte qui précède la célébration de Pâques. La Russie a contré la demande d'enquête indépendante de l'ONU concernant le massacre présumé de Moura au Mali. Plusieurs diplomates ont confirmé le veto de Moscou au Conseil de sécurité soutenu par la Chine. Les deux membres permanents ont justifié leur décision, avançant qu'ils ne voyaient pas la nécessité de la requête jugée prématurée. Le texte proposé par la France demandait des enquêtes approfondies pour établir les faits, trouver les responsables de ces violations et les exactions et les traduire en justice.
L'invité.
Notre invité est maître Michel Okanda Ndjadi, promoteur de l'ASBL Génération Michel Okanda, qui octroie des microcrédits aux femmes marchandes de différents petits marchés de la ville de Kindu au Maniema. L'opération vise 500 femmes marchandes. Déjà, 152 femmes maraîchères ont reçu au total 5 millions de francs congolais pour cette fin. Maître Michel Okanda Ndjadi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Michel Okanda Ndjadi, bonjour.
Bonjour, madame.
Votre génération octroie des microcrédits aux femmes marchandes de la ville de Kindu. D'où est venue l'idée?
Merci. Nous avons été sollicités par une ASBL, Umoja na Maendeleo, que préside Monsieur Jovit Fambangongo, pour appuyer ces femmes marchandes de petits marchés communément appelés Limanga et qui sont disséminés dans tous les blocs et dans tous les quartiers de Kindu. Et celui qui a introduit la demande auprès de notre génération, et c'est comme ça que nous avons réfléchi avec lui pour pouvoir appuyer ces femmes et ainsi améliorer leurs revenus.
Vous appuyez les femmes pour améliorer leurs revenus. Quelle est la forme juridique de votre génération?
Notre génération est une association sans but lucratif qui évolue dans le Maniema. Nous sommes dans plusieurs secteurs, mais pour l'essentiel, nous œuvrons en faveur du développement. Nous apportons du soutien à microcrédit, nous apportons le soutien pour les femmes et les jeunes désœuvrés, avec tous ceux qui développent le petit élevage. Nous apportons également un soutien dans la formation pour les études.
L'argent que vous donnez aujourd'hui aux femmes, quel est le mode de remboursement et cela pour combien de temps?
Je dois d'abord préciser que les microcrédits qui ont été octroyés aux femmes du bloc Kipalamoto va s'étendre sur l'ensemble des petits marchés de la ville de Kindu. Nous disons également que ceux qui ont reçu le microcrédit ont par principe 7 jours de grâce. Ils ne remboursent aucun rang et que c'est au 8e jour qu'ils commencent à rembourser 1000 francs par jour. Notez que ce microcrédit est sans intérêt, zéro intérêt. Ils ne remboursent que l'argent qu'ils ont eu à recevoir et les bénéfices, ils les gardent à 100%.
À quoi vous servira l'argent que ces femmes remboursent?
Bon, nous connaissons bien le mode de remboursement dans les microcrédits, c'est du circulaire, ça veut dire que du rotatif. Aujourd'hui, le groupe de Kipalamoto a reçu. Demain, cet argent-là pourra être donné à un autre marché, celui de Basoko par exemple, et après-demain, ça sera un autre groupe, et voilà, c'est du rotatif. C'est une expérience que nous tentons, mais comme ça s'est fait avec toute l'orthodoxie voulue, nous allons évaluer 6 mois après pour se dire, est-ce que nous avons pu atteindre l'objectif souhaité? Notre objectif, c'est d'améliorer, n'est-ce pas, le revenu de ces femmes, lesquelles se déplacent emploi pour leurs enfants à l'école, lesquels supportent les charges de leur foyer, et donc cet appui doit être à mesure d'apporter du changement. Quelqu'un qui a reçu de l'argent et qui n'a pas atteint cet objectif, nous considérons à ce moment-là que c'est un échec. Mais nous osons croire que nous avons réussi parce qu'elles ont été suffisamment sensibilisées, mais au-delà de la sensibilisation, elles ont bénéficié également d'une petite formation de gestion de petits fonds pour être à mesure de rembourser à délai et également au montant convenu.
Monsieur Michel Okanda, on ne le souhaite pas, mais s'il arrivait qu'une femme n'arrive pas à rembourser le montant lui confié, quel sera son sort?
Bon, je sais que pour toute opération, le risque zéro n'existe pas. Nous savons que les deux associations vont devoir se mettre ensemble pour examiner les modalités de règlement de ce petit différend. Mais elles se connaissent et à ce titre-là, elles se sont regroupées dans des petits groupes de 10, 10, 10, 10, et ce qui fait que on est vraiment sûr que le risque de perdre l'investissement est très minime.
Pour terminer, où est-ce que la génération Michel Okanda tire son financement?
Il faut dire que nous sommes une association sans but lucratif et notre association a ses fonds propres, dont je suis moi-même le premier bailleur. Mais il y a également des partenaires, comme c'est le cas de le dire, la Dynamique Salomon, Idi Kalonda pour le développement, qui nous aide, qui nous appuie, à appuyer également les mamans et à réaliser toutes autres activités au travers la vie de Kindu.
Monsieur Michel Okanda Ndjadi, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà comment se referme cette édition de journal préparée par Pierrot et la Meji, Alain Irung et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Yvan Lutumba était à la présentation. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.